Priorité santé, Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous propose de découvrir le travail de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Walé à Ségou au Mali. Cette association vient en aide depuis plus de 10 ans aux personnes porteuses du VIH-Sida. Nous sommes à 250 km au nord de Bamako, la capitale, au bord du fleuve Niger. Nous allons voir concrètement comment se passe la décentralisation de l'accès au traitement contre le Sida au Mali. Vous savez, on a déjà parlé dans Priorité Santé de ces patients perdus de vue, c'est-à-dire de ces patients qui ne reviennent pas au centre de santé pour se faire soigner et dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Dans cette association, vous allez le voir, on fait tout pour les retrouver, comprendre ce qui leur arrive et les aider à reprendre leurs antirétroviraux. On commence la visite par le bureau du travailleur social, Cheikh Ouma Koumaré.
En fait, quand les patients sont là, leur premier rendez-vous, on fait une enquête sociale. C'est pour connaître davantage les patients, connaître sa position familiale, son gain et surtout son adresse. Maintenant, on fait une catégorisation en cas de besoin pour les appuyer en céréales. Par trimestre, ceux qui sont en catégorie C, ce sont les patients les plus démunis, n'ayant pas beaucoup de revenus. Maintenant, et ils bénéficient un sac de riz et un sac de mil. 100 kg de riz, 100 kg de mil. Ceux qui sont en catégorie B peuvent bénéficier 50 kg de riz, 50 kg de mil. Ça permet à peu près à 7 personnes de tenir jusqu'à 3 mois.
Donc ça permet de nourrir la famille aussi, pas que le patient.
Effectivement, c'est pour la famille.
Et alors là, je vous ai dérangé en plein entretien. Vous êtes en train de parler avec un patient.
C'est un patient qui est là, qui maintenant est en échec. Maintenant, bon, il ne vient pas à son rendez-vous régulièrement. Bon, comme j'avais son numéro de contact et puis son adresse, maintenant j'ai fait de mon mieux pour chercher ces patients-là qui étaient perdus de vue, pour qu'ils viennent maintenant, ils nous expliquent les raisons pourquoi il n'est pas venu.
Ça veut dire que vous êtes allé le chercher en voiture à l'endroit où il habite et vous êtes revenu avec lui ici?
Oui, j'ai une moto. Alors j'ai appelé, j'ai demandé juste chez lui et j'ai trouvé qu'il avait des problèmes. Bon, c'est des problèmes personnels quoi. Parce qu'il ne réside pas à Ségouville, c'était des problèmes de moyens financiers. Parce que quitter le village pour venir, ça occasionne des frais. C'est un pauvre cultivateur qui n'a pas assez de moyens. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il emprunte de l'argent. Il habite à plus de 300 km de Ségou. Hein. C'est un village où l'accès n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, ça demande 2500 francs CFA. Allez simple.
Mais comment vous avez fait là? Vous êtes allé à 300 km de Ségou le chercher?
Oui, j'ai une moto et puis je suis payé pour ça. Et puis j'ai même mangé chez lui, avec lui, dans les mêmes plats. Et les gens ont vu ça. C'est significatif. Bon, si les patients, ils se trouvent qu'ils souffrent de la discrimination par l'environnement. Maintenant, si l'environnement me voit en train de manger avec lui, partager certaines choses avec lui, maintenant, ils aussi peuvent se poser la question, ah, à travers ça, le VIH ne se transmet pas. Maintenant, ils peuvent m'imiter. Et le patient, il aura la paix chez lui.
Et alors, comment vous faites quand vous allez chez les gens comme ça en moto? Vous dites que vous êtes de quelle association? Comment faire pour respecter la confidentialité et que les gens du quartier ne sachent pas forcément que la personne est atteinte par le VIH-Sida?
Depuis les premiers jours, lors de l'enquête, on demande au patient, est-ce que vous acceptez une VAD, c'est-à-dire une visite à domicile, en cas de besoin? Le patient, s'il accepte, il nous dit oui. Et je lui repose la question, comment faire pour négocier l'accès? Comment faire pour t'avoir? Bon, certains nous disent, il faut passer par l'intermédiaire d'une autre personne. D'autres nous disent, rentrer directement, moi je ne cache pas ma séropositivité. Bon, c'est ça quoi.
Et alors dans ce cas-là, comment avez-vous fait?
Bon, lui, il m'avait dit que je peux rentrer facilement. Toute la famille est au courant de son statut, il ne l'a pas caché. Bon, au début, il l'avait caché, mais finalement, il a dévoilé ça. Il m'a dit de rentrer directement, aller le voir. Et c'est comme ça que j'ai fait.
On comprend bien l'importance dans ce genre de situation de décentraliser l'accès aux soins, de permettre aux patients de se faire soigner le plus près possible de chez eux. Le docteur Drissa Katilé est coordinateur du centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans cette ONG Walé.
Ces patients, avec la décentralisation, comme il y a les ARV qui sont partis au niveau des cercles, donc nous demandons à ces patients de rester au niveau de ces cercles et prendre leur traitement ARV. Mais certains ont accepté, mais il y a d'autres qui reviennent pour continuer avec leur suivi à notre niveau. Peut-être c'est dû à la qualité de la prise en charge, surtout le soutien psychologique et le soutien nutritionnel que nous on fait, qui ne se fait pas très souvent ailleurs. À cause de ça, ces patients reviennent. Nous, on essaie de les convaincre pour qu'ils restent au niveau de leur localité. Bon, lui, il est dans cette phase présentement. Il sait pertinemment que les ARV sont là-bas. On est en train de continuer d'ailleurs les convaincre pour qu'ils puissent vraiment accepter de rester au niveau de sa localité et de faire continuer avec sa prise en charge. Donc ces cas comme ça, on les recense au niveau de notre pharmacie. Les pharmaciens nous sortent une liste. Voilà la liste des patients qui doivent venir cette semaine. Voilà la liste des patients qui doivent venir au cours de ce mois. Donc quand un patient ne respecte pas, n'est pas assidu au rendez-vous, en général, nous, on organise la visite à domicile.
Et là, c'est embêtant pour ce patient d'avoir arrêté le traitement pendant un mois.
Oui, c'est parce que les ARV, il faut les prendre tous les jours et aux heures bien précises. Donc, il n'est pas en train de remplir ses conditions et il va de soi qu'il y ait des mutations de résistance. Donc, un jour va arriver, il va tomber en échec thérapeutique et il faut des nouvelles molécules. Si on n'a pas d'autres produits disponibles à notre niveau, ça va être très difficile, la gestion.
Donc, qu'est-ce que vous allez voir avec lui, là, maintenant ?
Maintenant, il m'a expliqué la raison. Je lui ai donné des conseils pour que ça ne se répète plus. En cas de problème, qu'il nous contacte. On a une ligne verte à notre niveau. Je lui ai donné ce numéro.
En cas ça veut dire que c'est un numéro gratuit, c'est ça?
Voilà, un numéro gratuit. Si lui, il appelle, il ne paye rien. Maintenant qu'il nous appelle, en cas de problème, nous éclaircit réellement il y a ce problème et on verra quelle solution trouver, quoi.
Dans cette association, tout est fait pour aider les personnes porteuses du VIH-Sida à vivre le mieux possible. Des formations sont ainsi proposées pour leur permettre de développer une activité génératrice de revenus. D'autre part, tous les mardis, les patients qui le souhaitent peuvent participer au club d'observance. L'objectif est de les aider à suivre le mieux possible leur traitement. Alors lorsqu'ils arrivent le matin, ils commencent par préparer le repas. Puis tous ensemble, médecin, psychologue, animateur et patient prennent le déjeuner. Ensuite, ils se réunissent pour parler, échanger sur leurs difficultés personnelles. Les médecins donnent des conseils d'hygiène, d'alimentation. Une chose m'a frappée, il y a nettement plus de femmes que d'hommes. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'une d'entre elles qui vient tous les mardis au club d'observance.
La première des choses, on se réunit ici, on se discute, on s'amuse. Donc c'est un lieu, quand tu viens ici seulement, tu oublies que tu es malade. Ça, c'est la première des choses. Bon, tu apprends aussi que tu n'es pas seul dans les VIH. Même si tu vas à la maison, si tu es seul dans ta famille, même si ce n'est pas ici, le jour de l'activité culinaire, tu peux aller à l'association pour échanger avec les membres de l'association.
Donc, vous, ça vous fait du bien de venir ici, c'est ça?
Bien, parce que j'ai dit que si les gens viennent ici, vraiment, ils ne voulaient pas retourner à leur famille. Parce que quand ils sont à la maison, là, ils pensaient que c'est eux seuls qui sont infectés. Ils n'ont pas d'échange avec leurs parents. Tout ça, ça peut arriver à la maison. Mais arriver ici, nous sommes des mamans. Nous, et les médecins, les docteurs, on s'amuse. Il n'y a pas de frères ni de sœurs. Je ne sais pas comment les dire. Nous sommes les mêmes ici, quoi.
Priorité santé, reportage.
Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Ségou, au Mali. Cette ville est située à 250 km au nord de la capitale Bamako, au bord du Niger. Wale est soutenu par une ONG hollandaise, par Soltis, par une ONG française et par le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. David Somboro est originaire de Mopti, en pays d'Ogon, donc un peu plus au nord. Il est diplômé de l'université de Bamako, où il a suivi une maîtrise en psychologie, et il est chargé de la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH-Sida.
En fait, pour les patients, il s'agit d'abord, pour les nouvelles personnes qui viennent d'être dépistées, il s'agit de les informer, de les rassurer par rapport au VIH. Parce qu'ils n'ont pas tellement d'informations sur le VIH, qu'est-ce qui consiste cette maladie. Donc, ils ont beaucoup d'arrière-idées. Donc, il suffit pour la première partie de les informer, leur rassurer, soit individuellement ou en groupe. Et maintenant, nous pouvons les aider. En deuxième partie, les aider, les accompagner dans leur prise de décision, parce qu'ils sont déjà déboussolés, déversés, donc ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous les aidons, les accompagner dans leur prise de décision. Et en troisième position, maintenant, nous essayons de remonter les situations, les émotions que les patients éprouvent lors de leur rencontre ici au niveau du centre.
Est-ce que c'est difficile pour les patients ici de venir voir un psychologue? Est-ce qu'ils hésitent un peu avant de venir vous voir?
Bon, ils hésitent parce qu'ils ne savent pas qui est le psychologue, tellement que le psychologue n'est pas tellement connu. La psychologie chez nous, ce n'est pas tellement une situation développée. C'est surtout les agents de développement communautaire qui sont mieux reconnus par rapport au psychologue. Donc la psychologie, c'est quoi? Ils ne savent pas tellement. Mais dès qu'ils rentrent, c'est à moi de leur faire comprendre qu'est-ce que la psychologie. Maintenant, qu'est-ce que nous recherchons en eux? Et maintenant, au prochain rendez-vous, ah, ce monsieur-là, vraiment, il m'a rassuré l'autre jour, on s'est beaucoup entretenu, je commence à avoir espoir, donc je reviens, ils viennent au fil du temps et ils comprennent exactement qu'est-ce que la psychologie.
Ça veut dire qu'il y en a qui reviennent régulièrement pour voir, je dirais même en dehors des consultations pour récupérer leurs antirétroviraux, mais juste parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de parler et d'échanger avec quelqu'un qui peut comprendre.
Oui, exactement. Par exemple, la patiente que vous avez trouvée chez moi, c'est une patiente qui est revenue à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, elle avait des difficultés. Elle était avec son petit copain qui est négatif. Donc, il est venu voir la situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Elle est positive, le monsieur est négatif. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Moi, je les ai entretenus, je les ai pris à deux. Après, j'ai repris la fille pour voir, lui donner des pistes de solutions pour qu'ils puissent vivre ensemble. Elle n'est pas souvent arrivée, mais elle avait besoin de moi. Donc, elle était venue pour avoir des informations, pour rassurer aussi les copains par rapport au VIH.
Ça veut dire que ça se répand finalement ici, de venir voir un psychologue, ça devient presque plus courant ou c'est pas encore vraiment dans les mentalités?
Bon, chez les patients, c'est presque maintenant le quotidien. Parce qu'ils savent déjà, lors des clubs, lors des groupes de parole, donc quand on le fait, ils voient la nécessité. Donc ils se disent que vraiment, il faut que je vienne voir individuellement, après le groupe, ils viennent me voir. Ils disent, ah, David, j'ai quelque chose à dire, j'ai un problème là. David, est-ce que tu peux m'aider par rapport à cette situation conflictée au niveau du foyer, au niveau peut-être de l'utilisation du préservatif, comment aider le patient à faire son annonce au conjoint. Donc ils viennent. Parce que dans le groupe, on débat, mais ils voient qu'il y a un intérêt qu'il faut faire sortir. Donc, à ce moment, ils viennent individuellement me voir pour que je puisse leur donner des pistes de solutions.
Est-ce que je me trompe si je dis que finalement, avant, c'était un peu le tradipraticien qui faisait ce travail de psychologue et que maintenant, c'est repris par des psychologues? Est-ce que je me trompe si je dis ça?
Je vous avoue que vous ne vous trompez pas. Vous avez dit que la réalité, jusqu'à aujourd'hui, les gens se le comparent aux tradithérapeutes, ils les comparent aux charlatans. Ils préfèrent partir chez le charlatan que de venir voir un psychologue. Comme je vous ai dit au départ, la psychologie n'est pas tellement développée au Mali. Et je remercie encore peut-être avec l'émission du cœur ouvert qu'on anime à la télé, à la radio disons, les gens commencent à voir la nécessité d'aller consulter un psychologue. Sinon, avant, au départ, on le compare même présentement aux charlatans. Ça, c'est clair.
Et on comprend bien que le terme de charlatan ici n'est pas utilisé dans le sens péjoratif du terme. Le docteur Drissa Katilé s'occupe particulièrement en ce moment d'une petite fille de 8 ans qui est suivie par l'association depuis 4 ans. Son papa et sa maman sont morts du sida. C'est sa grand-mère qui l'élève, qui est aussi porteuse du VIH-Sida.
Cette fille, sa situation nous préoccupe et beaucoup, parce que c'est une fille qui a vraiment développé des mutations de résistance à pratiquement toutes les molécules disponibles au Mali. Et donc, vraiment, elle est en échec thérapeutique comme ça, pour ne pas dire qu'elle est en train de mourir à petit feu. Parce que la fille, elle a fait un échec virologique. Et donc, ça a coïncidé avec le passage d'un pédiatre français qui est venu en collaboration avec Soltis, qui est une ONG française, Alors, ce dernier, il a fait les prélèvements. On a effectué la charge virale ici qui était détectable, chose qui n'était pas normale. Alors, il a amené les prélèvements également à Bamako pour un génome, pour voir vraiment les mutations des résistances. Et donc, on a eu le résultat du génome depuis le mois d'août dernier.
Donc, mais cet examen du génome, il a été fait où, à Bamako ou à Paris?
Le pédiatre français, il a amené les prélèvements jusqu'à Paris. C'est fait au laboratoire de la Pitié-Salpêtrière.
Parce que c'est un examen que vous ne pouvez pas faire au Mali.
Voilà, c'est un examen qu'on ne peut pas faire au Mali ici. Et donc, quand il a fait les génomes, ils nous ont envoyé les résultats. Et nous, on a trouvé que vraiment, les virus ont développé des résistances à pratiquement toutes les molécules disponibles ici. Vous voyez les lèvres qui sont rouges, la réapparition des infections opportunistes, surtout sur le plan digestif. Elle a des candidoses, elle fait la diarrhée, elle a une altération de son état général. Elle est vraiment en échec clinique et il faut faire quelque chose pour lui. Nous ne disposons pas de molécules pour elle. Elle est orpheline de père et de mère. Son papa et sa maman sont décédés du VIH-Sida également. Elle vit avec sa grand-mère, celle-là, qui est aussi infectée par le VIH, qui est vendeuse de poissons au marché. Et bien sûr, avant qu'elle n'arrive à ce stade d'échec thérapeutique, on a quand même diagnostiqué les problèmes d'inobservance chez elle. Donc on a essayé de faire des efforts, de corriger. Moi-même, les psychologues et les conseillers, chacun fait de son mieux. Parce qu'elle, elle est obligée de s'occuper d'elle, elle est obligée d'aller vendre au marché pour subvenir aux besoins. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment affecter l'observance au traitement. Surtout elle prend ses médicaments, la petite également prend. Donc elle peut prendre bien pour elle, mais pour la petite, elle peut être empêchée. Donc,
Et la grand-mère, elle est suivie ici, voilà. À l'association?
Oui, la grand-mère est suivie ici.
Je veux bien qu'elle me dise d'abord comment elle va, elle.
Kola era farbitugudiko, la fiabe wa.
Ne voilà, awal la fiabe.
Elle dit ça va maintenant. Elle, quand même, son état, ça va. Comme je l'ai dit, elle est sous ARV également. Elle dit ça va. Elle arrive à s'occuper de sa vente de poissons.
Est-ce que vous êtes inquiète pour votre petite fille?
Voilà, elle dit que vraiment, elle est très très inquiète par rapport à sa fille. Elle est très très inquiète et qu'elle a même pleuré. Bon, elle ne sait pas si la fille va vivre ou pas, donc elle est très inquiète. Comme je vous ai dit, avec cet échec thérapeutique, il y a une réapparition des infections opportunistes. Bon, quand les infections opportunistes apparaissent, nous donnons des traitements. Mais tant qu'on ne donne pas des médicaments qui aient une augmentation de la quantité des CD4 et autres, les infections opportunistes vont réapparaître. Donc hier également, elle était venue, je crois, pour la diarrhée également. Et on est en train de faire un traitement des maladies opportunistes seulement. Parce que pour les ARV, elle n'a pas vraiment de médicaments qui peut marcher.
En tout cas, elle a confiance en vous parce que quand elle est arrivée, elle est tout de suite venue près de vous. Elle vous a donné la main et là, elle reste bien collée à vous.
Ouais. Bon, on est ensemble. On est ensemble depuis 2005. Comme elle a été initiée en 2004, moi, je suis arrivé en 2005. De 2005 à maintenant, on est bien, ça va. C'est pourquoi on est amis, ça va et il n'y a aucun problème. Et à 8 ans, elle comprend déjà parce qu'on l'a pris, on l'a amené à Soltis, on l'a amené chez le gouverneur. Elle imagine déjà qu'on est en train de faire quelque chose pour elle. C'est pour qu'elle est confiante comme ça, elle est collée.
On sent que vous l'aimez bien.
Oui, j'aime mes malades, mais précisément les enfants qui sont sous ARV. C'est l'autre jour quand j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille à Soltis, c'est ce que j'ai dit, les enfants, je tiens à les voir parce que les enfants ne meurent pas. Quand on les met sous ARV, en général, ils ne meurent pas. C'est pour ça que je m'implique beaucoup.
Merci à l'association Wallet de m'avoir accueilli, de m'avoir permis d'assister à ce club d'observance et de déjeuner avec des patients. Françoise André a réalisé cette émission avec à la technique Jonathan Detrault. Au revoir à tous et à demain.